Le week-end des experts sur RMC.
Moi, mon kiff, c'est les animaux. Mais bon, vers chez nous, les seuls animaux qu'il y a, c'est des pitbulls, des rottweilers.
Mon chien, il m'a pas défendu du tout, alors que j'étais descendu pour lui.
Vos animaux.
J'ai dû le faire dresser. Je lui ai fait faire un mois de stage intensif dans un centre de dressage pour chiens d'attaque.
Et le dresseur, en attendant, il m'a prêté un pitbull.
François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h10. Un excellent dimanche, bon réveil à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous sur RMC. Deuxième partie de notre week-end des experts animaux. Je vous rappelle que tout à l'heure, à partir de 8h, c'est Jean-Luc Moreau qui nous rejoindra pour l'automobile. Laetitia, on va découvrir l'association Gueule d'Ange maintenant.
Eh oui, Gueule d'Ange. Et nous sommes avec Evadia qui est présidente de cette association. Bonjour, bienvenue dans notre studio.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Eva. Alors, votre association a pour but de lutter contre la discrimination. Il faut vraiment parler de discrimination faite à certaines races de chiens que le législateur a désigné comme dangereux, entre guillemets. Alors, ce sont les chiens dits de catégorie 1 et 2. Ce sont des molosses, comme les rottweilers, les amstaffs. Alors, peut-être rappeler justement la législation sur ces chiens dits catégorisés. Tout remonte à la fameuse loi.
Entre discrimination voilà. Et fameuse.
C'est vrai.
Du loup. Pas facile.
Du 6 janvier 99.
Oui. Alors donc, cette loi en fait est, enfin on va pas se mentir, est née parce qu'il y a eu donc un petit quelques drames en fait. C'était un effet de mode dans les débuts des années 90 où il y a eu donc plein de rottes, plein de staff. Voilà, c'était
pitbull
aussi.
Oui.
Et voilà, ils ont pas une super image.
Parce qu'il y a eu des accidents avec, parce que certains jeunes les ont utilisés comme armes, on va dire.
Oui, et puis oui, il y a eu cette image un petit peu de banlieusard qui a son pitbull, son rottweiler. Il y a eu des combats de chiens, ça aussi, faut le dire, oui. Et faut pas non plus le nier. Il y a eu des accidents parce que c'est des chiens qui étaient pas forcément spécialement éduqués.
Et donc on a stigmatisé ces races, on a décidé que ces races étaient dites dangereuses. Alors on a catégorisé deux types de races, les chiens dits d'attaque, avec les pitbulls par exemple, les chiens dits défense, comme les rottweilers ou les amstaff.
Alors après, c'est vrai que c'est très subtil. Donc on a mis en deux catégories. Catégorie 1, où justement, donc on a mis les pitbulls, les amstaff non lof, les tosa. Bon, ça on n'a pas beaucoup en France. Et la catégorie 2 avec donc les rottweilers, les amstaff lof. Et c'est une subtilité
de race, tout simplement, à savoir s'ils ont ou pas le pédigré.
Ce qu'il y a derrière est un peu différent. Par exemple, sur la catégorie 1, on est obligé de stériliser tous les chiens.
Faut parler plus près du micro, Eva, pour qu'on vous entende.
J'ai pas du tout l'habitude.
Mais c'est pas grave, nous non plus. Vous inquiétez pas. Alors, ça va bien se passer.
Les chiens dits catégorisés, les plus fréquents en France sont les rottweilers et les amstaff.
Oui.
Alors, les contraintes sur ces chiens, c'est, il faut un permis un peu pour les avoir. Il faut qu'ils soient muselés. Tenu
en
laisse.
C'est ça. En fait, il y a une loi assez dure et contraignante. Donc, c'est ce permis de détention. Dans le permis de détention, vous devez avoir donc faire une formation pour le mettre. Votre chien doit passer un test de comportement classé entre niveaux. Voilà. Donc, le plus souvent, c'est niveau 1. Les chiens sont très bien dans leur basket. Vous devez donc le déclarer en mairie, vaccin à jour. Assurance responsabilité civile. Voilà, il y a un tas de papiers à faire pour avoir ce permis de détention.
Pour avoir un rottweiler.
Ou un American Staff. Et on va pas non plus se mentir, c'est très coûteux aussi. C'est devenu un luxe d'avoir
un chien
comme ça.
Pourquoi l'association ?
Alors, l'association... Bon, tout d'abord, c'est le spot qui est né. Donc moi, avant tout, je suis réalisatrice. J'adore les animaux. Et donc, j'ai eu mon petit Iron, mon American Staff. Et j'ai subi donc tous les jours le regard des gens, les insultes, voilà, les remarques.
C'est-à-dire que dans la rue, les gens vous disent comment il est dangereux, il n'a pas de muselière.
Ça va au-delà de ça en fait. J'ai le droit à des insultes. Donc oui, votre chien devrait mourir. Mais après, ça va même sur des insultes physiques. Ça va sur des gens qui changent de trottoir. J'ai même une personne qui a sauté sur la route en voyant mon chien et qui s'est fait renverser sur une voiture parce qu'elle a eu peur du chien. Et en fait,
Alors, le chien avait un comportement normal, enfin, je veux dire.
Sa petite fleur, enfin, comme tout un chien normal,
oui.
Quoi.
D'accord.
Et c'est vrai que les réactions, c'est un peu démesuré. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que les choses changent. Enfin, c'est pas normal que les gens aient peur comme ça. Il y a un manque d'informations. Et je me suis dit, autant faire donc cette une vidéo pour montrer un peu le vrai visage de nos chiens.
Un vrai clip avec des chiens dits catégorisés, dont des Amstaff, des Rott, qu'on voit dans des situations où on les imagine pas en fin de compte.
C'est ça. Pourtant, c'est des chiens qui font des choses super. Et là, je voulais vraiment montrer que c'est qu'ils peuvent faire ce genre de choses. Sur le spot, vous voyez donc ces chiens en situation avec des personnes. Handicapés, donc à mobilité réduite, avec
des enfants,
des personnes âgées, des chiens sauveteurs. Vous avez un Rottweiler sauveteur en mer.
On voit aussi un Rottweiler qui fait du dog dancing, de la danse de chien avec son maître.
Un beau duo, voilà, c'est pareil, on n'attend pas un chien danser comme ça, on imagine une autre race. Et voilà, j'ai voulu vraiment casser un peu les stéréotypes de chien dangereux. Je veux vraiment montrer le vrai visage.
Oui, c'est avant tout un chien comme un autre.
C'est voilà. Ça.
Alors, d'où vient le fait que les gens vous disent « ce sont des chiens méchants »
C'est pas... je pense que c'est dû à leur image. Il s'est passé ce qui s'est passé.
Et le caractère, comment est le caractère de ces chiens?
C'est des nounours. Honnêtement, c'est des gros nounours. C'est des chiens super. Après, ils impressionnent par leur morphologie. Ça, c'est vrai.
C'est des molosses.
Alors, faut faire aussi attention. Les American Staff sont pas des molosses, sont des terriers. Et c'est vrai que du coup, la nuance est importante pour eux.
Ils ont des grosses mâchoires quand même.
Oui, ils ont des grosses mâchoires, mais c'est vrai que dans les groupes, c'est pas du tout ce qu'on appelle molosses. Et les propriétaires d'Amstaff sont un peu tatillons sur ce terme-là. Faut que je vous le dise. Non, c'est vrai que du coup qu'ils ont des grosses mâchoires, mais il y a d'autres chiens qui ont aussi des mâchoires puissantes. C'est vrai que dans le top 10 des chiens mordeurs, le pitbull, le Rottweiler n'apparaît pas.
Oui. Il y a plus de Labrador, de Golden Retriever et de Berger allemand.
C'est ça.
En fait, Laetitia, c'est lié à la taille du chien, à sa force.
Oui. Puis alors, aussi une chose, c'est que tous les chiens, que ça soit le petit chihuahua, le dog allemand, le labrador, peuvent être mordeurs, bien sûr, et tout dépend des conditions de vie qu'il a eues quand il était petit et de l'éducation. Donc
c'est
du conditionnement.
L'éducation est important. C'est comme un enfant. Bon, certains n'aimeront pas que je fasse la référence entre les deux, mais tout dépend de l'éducation. C'est important d'éduquer son chien dès petit.
Alors la vidéo a été vue 105 000 fois déjà.
Ouais.
C'est bien ça, c'est énorme parce qu'elle vient juste d'être mise en ligne. Vous pensez que ça va vraiment changer cette image? Alors elle est super la vidéo, vraiment
merci,
on
merci
peut écraser beaucoup. Une larme à la fin de la vidéo parce que c'est vraiment très
c'était
émouvant.
C'était le but.
Il y a vraiment alors un délit, moi j'appelle ça un délit de sale gueule quoi.
Carrément, oui. J'espère moi que ça fera évoluer les choses, j'ai envie vraiment de toucher un petit peu tout le monde. C'est vrai que le spot a été beaucoup vu aussi par les passionnés. Parce que j'ai aussi ce soutien-là. Mais il faut aussi que ça touche un petit peu les gens qui sont réticents. Et en fait, mon but, c'est de convaincre. Voilà, de montrer qui ils sont vraiment. Parce que pour moi, je dis la vérité. Je fais pas du cinéma en disant...
Oui, c'est pas de la fiction. Les situations que vous avez filmées, c'est vraiment la vérité.
Voilà.
Alors, vous avez fait aussi une opération...
Aucun comédien a été mordu pendant le film.
Manger, oui, mais...
Oui, manger, mais ça, c'est logique. Attendez, non, mordu, tout va bien.
Oui, tout va bien.
D'accord. Laetitia, on revient dans un instant. Il est pratiquement 7h20. Evadia est notre invité ce matin. Et si vous voulez réagir, posez vos questions sur ce sujet. 3216 ou animaux@rmc.fr. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts. Vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
7h20, c'est RMC, c'est le week-end des experts et les animaux. À suivre dans quelques instants, un zoom sur l'association Handicats qui vient en aide à des chats handicapés. Alison Salandre sera avec nous. Et puis, tout à l'heure, Laetitia, on donnera plein de conseils à tous ceux qui nous écoutent pour bien accueillir les oiseaux dans leur jardin ou leur terrasse pour le printemps. Est-ce qu'il faut nourrir les oiseaux pour le printemps? Tiens, parce qu'on sait que l'hiver, ils ont besoin justement d'avoir leur petit repas. Mais est-ce qu'on doit continuer au printemps? On verra ça tout à l'heure avec eh bien spécialiste qui sera avec nous. 3216, hein, animaux@rmc.fr si vous voulez nous joindre.
Et si
on
vous...
parle ce matin de ces chiens dits dangereux, mais on se rend compte, hein, quand on écoute notre invité Evadia, que ils ne le sont pas. Et
oui, c'est une forme de racisme, hein, envers certaines races de chiens, justement. Hein, et justement, comme ils ont, on les a inclus dans cette loi, ces chiens dits catégorisés, le législateur a décidé d'en faire des chiens dits dangereux. Bah, du coup, dans la rue, vous avez vraiment des problèmes avec des personnes qui ont très peur de ces chiens ou qui carrément les rejettent. Ça, c'est incroyable, quoi.
Oui, oui, carrément, c'est vraiment.
Et les forces de l'ordre.
Il y a des contrôles,
oui.
Donc ils demandent les papiers du chien, les muselières doivent être obligatoires, sinon c'est une grosse amende. Mmh. Ça, je vous le dis, enfin, tout le monde ne met pas la muselière, c'est vrai que...
Moi, je vais vous dire une chose, c'est qu'on rend quelque part ces chiens asociaux, tout simplement en leur mettant une muselière, en les tenant en laisse. Pourquoi ? Parce que comme ils sont en muselière, ils sont tenus en laisse, les autres chiens qui sont dans la rue, bah, les personnes changent de trottoir,
bien sûr.
Donc évitent les contacts avec ces chiens-là. Donc vous avez un chien qui n'a plus du tout de contact avec les autres chiens, et c'est comme ça qu'on rend les chiens asociaux, c'est-à-dire qu'ils ne supportent plus de voir les autres chiens.
Oui, totalement. Les gens nous évitent, les chiens nous évitent. Au final, bah, ça rend des chiens qui n'ont pas l'habitude de voir l'autre. Et c'est pour ça que moi, je voulais casser ce qui est dit, et c'est pour ça qu'on fait des balades, on les sociabilise. Oui.
Vous avez fait une opération séduction, une opération Cupidon
ouais.
Pour la Saint-Valentin, c'est-à-dire.
Alors, enfin, on fait plusieurs balades à thème, et celle-ci, en fait, l'opération Cupidon, c'était d'aller à la rencontre des gens avec nos chiens. Donc, ils étaient déguisés avec des ailes d'ange, on avait des t-shirts, et leur demander, en fait, ce qu'ils pensaient des chiens et s'ils étaient capables de les caresser ou de faire un bisou, voilà, qu'on a filmé. Et en fait, la réaction des gens était très étonnante. Tout le monde était très ouvert. Les gens un peu réticents ont joué le jeu, ont touché le chien et... Bah, c'était une mission plutôt réussie. On est fiers de nos gueules d'ange.
Bah, moi, j'ai vu une chose, c'est que j'ai des patients qui sont des Rottweilers, par exemple, et les gens me disent justement dans la rue que les passants ont peur de leurs Rottweilers, retiennent leurs chiens ou leur disent mettez la muselière. Et j'aurais dit mais mettez un bandana et une tétine, par exemple, au collier, voire même une petite peluche au collier, ça change l'image du chien. Tout de suite, on voit que c'est un chien.
Ouais, voilà. On change son look, c'est comme si nous...
On change le look du chien, et du coup, il devient plus sympa aux yeux des gens.
Sur la balade de Noël, nos chiens avaient des colliers lumineux.
Oui.
Donc pareil, les gens s'arrêtaient, oh, c'est super sympa, on était en semi-nuit, et on avait des lumières de partout, et pareil, les gens vont vers nous. Il faut le rendre gentil, et c'est vrai, c'est aussi à nous maîtres de faire un travail, et pas non plus rentrer dans le conflit quand il y a insulte, ou quand il y a des gens qui changent de trottoir, faut pas rentrer dans le conflit, faut dire non, mais mon chien est très gentil, si vous voulez le caresser, il n'y a aucun problème.
Si une personne vous demande, voilà, j'aimerais avoir un Rottweiler ou un Amstaff, quels seraient les conseils que vous leur donneriez?
Bon, déjà qu'ils soient stables psychologiquement.
Oui, ça, de bien choisir l'endroit où on prend son chien. Après, c'est un chien comme un autre à éduquer des jeunes. C'est vrai qu'il faut l'éduquer pour pas non plus que pas faire n'importe quoi. Et surtout, moi, j'invite vraiment même aux membres de Gueule d'Ange, c'est respecter la loi. Parce que nous, c'est nous. Une amende, c'est une amende. Mais si notre chien est pris, c'est autre chose. Et j'invite vraiment les gens, du coup, à respecter la loi tant que ça n'a pas bougé.
Pensez que ça va bouger?
J'espère.
En tout cas, des actions comme les vôtres peuvent aussi faire évoluer les mentalités et peut-être la législation aussi.
C'est ça, c'est un autre combat tous les jours, on ne lâchera pas et on essaiera de faire bouger les choses.
Est-ce que vous avez envie justement d'avoir encore plus de membres de votre association, de personnes que vous pouvez rencontrer?
Oui, donc nous, dès qu'on peut avoir, enfin nos événements regroupent de plus en plus de personnes, on invite les gens à venir, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et du coup, on les soutient par rapport à ça, on est ouvert à tout le monde, enfin même toutes les races de chiens. Si un chihuahua veut venir à notre balade, il n'y a aucun problème.
Ça, c'est un message personnel. Hein.
Voilà. Ouais.
J'imagine votre chihuahua avec une petite tétine et une petite... Alors, il faudrait une petite peluche, parce que si elle est trop grosse, on ne pourra plus bouger.
Hein, micro-peluche.
Une micro-peluche.
Et un bandana.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Evadia, d'avoir été avec nous
merci
ce matin.
Beaucoup. On va mettre en ligne sur notre
ça,
page
c'est déjà
Facebook.
Fait.
Voilà, le clip des gueules d'ange. Et vraiment, je vous invite à visionner cette vidéo, parce que c'est vraiment très tendre, émouvant. Et comme je vous dis, j'ai écrasé une petite larme à la fin de la vidéo.
Oh, ça me touche beaucoup, ben, merci beaucoup.
Oui, parce qu'en plus, c'est vous qui l'avez réalisé.
Hein. Oui, du coup, c'est moi qui l'ai réalisé.
Et pour l'avoir vu, vous avez l'air d'avoir beaucoup de talent, c'est bien. Il faut continuer dans cette voie-là. Laetitia, on va revenir dans un instant, la météo et les infos de 7h30. On va accueillir Alison Saland, qui est présidente de l'association Handicats, qui aide en fait les chats handicapés, hein, c'est ça?
Voilà, vous savez, ce sont un peu les animaux éclopés que personne ne veut. Et ben justement, Alison, elle les accueille et trouve, les soigne éventuellement s'ils ont un handicap, s'il faut des soins. Et après, trouve une famille adoptante pour ces chats, pour qu'ils aient une seconde chance dans leur vie.
Voilà, et puis on accueillera aussi tout à l'heure Gilles Lebier, qui est ornithologue et auteur de J'accueille et j'observe les oiseaux dans mon jardin. Est-ce que au printemps on doit encore nourrir les oiseaux, leur donner à boire, etc. Ou alors faut-il qu'ils se débrouillent tout seuls? On en parle dans quelques instants. Et puis il y aura aussi notre petite vidéo LOLCAT comme chaque dimanche matin, bien évidemment. La météo, les infos et on est de retour sur RMC. À tout de suite. Attention Laetitia, petite question flash. En moins de 2 minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Jeanne. Quels sont les gestes à faire, Laetitia, ou à ne pas faire, et les précautions à prendre pour qu'un chiot de berger allemand ait des oreilles correctement dressées?
Ah.
Et question subsidiaire, à quel âge seront-elles définitivement droites, les oreilles?
Je pense qu'elle se pose la question parce qu'en ce moment, elle doit avoir un bébé berger allemand qui a les oreilles un peu
cassées.
Voilà, enfin, qui, il y en a une qui dit bonjour et l'autre qui reste droite.
C'est pas une chanson de Boël, ça, casser l'oreille?
Non, c'est pas ça. Ah, voilà.
C'est pas ça.
Peut-être. En tout cas, c'est très normal, d'abord, parce qu'entre 3 et 6 mois, les grandes oreilles des chiens tombent. Enfin, celles qui sont dressées, hein, c'est selon les races, bien sûr. Hein, chez le cocker, elles tombent tout le temps, hein, parce qu'elles sont toujours... Mais chez le berger allemand, on voit le chiot avec les oreilles qui tombent. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, il y a une croissance rapide avec de l'oreille, avec un cartilage souple. Du coup, l'oreille est trop lourde et pouf, ça tombe. Voilà, parce qu'elle n'est pas assez solide, tout simplement, l'oreille. Et puis, on sait aussi qu'il y a une certaine irritation des terminaisons nerveuses due au fait que les dents changent entre 3 et 6 mois. On a le renouvellement, justement, de la dentition. Donc, c'est ce qui irrite un petit peu ces terminaisons nerveuses qui fait que l'oreille aussi tombe. Alors, ce qu'il faut faire, Jeanne, il ne faut rien faire.
Ah.
Il faut attendre, tout simplement.
Il faut laisser faire la nature.
Surtout ne pas mettre de tuteur, de coller les dents, les oreilles.
Ah ouais.
Ce que j'ai vu.
Coller les oreilles.
Oui, non, j'ai tout vu. Les tuteurs, les oreilles collées. Et surtout ne pas donner de calcium en plus. Ça, c'est la deuxième erreur que l'on fait.
Ouais.
Parce que si votre chien est bien nourri, s'il a une alimentation pour chiot en croissance, donner plus de calcium qu'il ne faut, on aura après des troubles de la croissance, des déformations,
d'accord,
des articulations.
Donc petit à petit, les oreilles reprendront leur place.
Oui. Ah. Vous allez voir, après 6 mois, les oreilles seront droites.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
7h34, le week-end des experts, les animaux. Merci d'être avec nous. Un bon dimanche. Notez que tout à l'heure, entre 8 et 10, c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoindra à l'automobile. On parlera de diesel tout à l'heure. Vous savez que l'immense majorité du parc aujourd'hui automobile en France roule au diesel. Comment décrasser son diesel? Parce qu'au bout d'un moment, ces petites bébêtes-là marchent moins bien. Eh bien, on aura un spécialiste, plusieurs spécialistes, aux côtés de Jean-Luc Moreau qui répondront à toutes vos questions. L'automobile, donc, à partir de 8h sur RMC. Laetitia, notre veto, qui c'est?
Eh oui, le veto quand même, hein.
Eh ben oui, forcément, puisqu'on est dimanche matin et qu'il est 7h35. Tout à l'heure, on retrouvera quelques conseils pour nourrir les oiseaux avec notre invité, un ornithologue qui sera là, Gilles Lebier. Mais auparavant, Laetitia, on va faire un zoom sur l'association Handicats.
Handicats, avec Alison Salandre, qui est présidente de cette association. Alison, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, votre association Merci. Vient en aide aux chats handicapés, comme son nom l'indique, chats malades ou blessés, enfin des chats un peu éclopés, on va dire, qui sont un peu les laissés pour compte des refuges. Comment est née cette association?
Alors, elle est née il y a 4 ans maintenant. J'ai décidé de la créer suite à l'accueil d'un chat qui a été accidenté, qui est devenu paralysé du train arrière et incontinent, qui s'est battu pendant des mois pour survivre et bon, qui a fini par décéder de toute autre chose, mais en tout cas qui a vécu plusieurs mois de bonheur avec nous. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il n'y avait personne pour les accueillir.
Eh oui, et surtout voilà, personne pour les adopter.
Et surtout personne pour les adopter. Après, bon, ça c'est une autre étape, mais déjà dans un premier temps, les accueillir, les soigner, prendre en charge les opérations qui sont parfois très très lourdes et surtout très coûteuses. Mmh. Il était là le besoin, donc c'est pour ça que j'ai créé Handicap.
Et vous fonctionnez comment? Comment les chats arrivent chez vous?
Alors, ils arrivent de partout en France. Ce sont des vétérinaires qui nous appellent, des particuliers, des fourrières, des refuges. Ils viennent vraiment de tous horizons. Avec le temps, on a commencé à nous appeler de partout, voire même plus loin, puisque on s'arrête plus maintenant à la France. On accueille aussi des chats de l'étranger.
D'accord. Alors, les handicaps qu'ont ces chats. Qu'est-ce que c'est?
Alors, ça peut vraiment être le chat borgne qui a eu un œil crevé ou qui est né avec un seul œil, parce que ça existe aussi, avec une malformation, au chat handicapé locomoteur avec des troubles neurologiques ou des malformations de naissance. Ça va vraiment du simple au beaucoup plus important.
Laetitia, juste un mot concernant les animaux handicapés, les chats ou les chiens. C'est vrai que on a souvent tendance à se projeter, à se mettre à leur place.
Exactement.
Mais un handicap chez un chat ou un chien n'est pas forcément aussi handicapant que pour nous. Par exemple, on sait que les chats et les chiens ont des sens qui sont beaucoup plus développés. Et s'ils ont par exemple qu'un œil, ça sera, ils vont très vite s'adapter
bien
à cette
sûr.
Nouvelle situation et vivre à peu près normalement.
Bien sûr, les chats et les chiens ont une capacité d'adaptation phénoménale.
Et puis ils ont 4 pattes accessoirement,
voilà.
Alors que nous on en a que 2.
Voilà, mais même ils peuvent avoir 3 pattes par exemple, être handicapé et n'avoir que 3 pattes, voire même que 2 pattes qui fonctionnent et être paralysé. Et on a tous vu un chien qui était sur un petit traîneau à roulettes et qui menait une très belle vie. Ils intellectualisent pas le fait qu'ils soient handicapés, ils s'adaptent et même des animaux aveugles peuvent très bien vivre une vie normale. Alors bien sûr adaptée, hein, bien sûr, faut adapter leur environnement, mais on peut leur donner cette chance-là.
Il faut voir qu'ils n'ont pas le regard des autres par rapport aux humains aussi.
Bien sûr.
Ils n'ont pas ce retour. Eux ne pensent qu'au moment présent et ne voient pas en effet ce que les autres peuvent penser d'eux. C'est vraiment important.
Alors, juste une petite question, vous qui nous écoutez ce matin. Vous avez un chat qui est handicapé, qui entend mal, qui ne voit pas. Un chat ou un chien d'ailleurs. Vous voulez témoigner parce que finalement, dans la famille, ça ne se ressent pas. Ils vivent totalement normalement. N'hésitez pas, appelez-nous dès maintenant pour témoigner, 3216 ou bien animaux@rmc.fr.
Alors, est-ce que c'est facile, Alison, justement, de trouver, quand vous avez soigné ces chats, quand ils sont proposés à l'adoption, est-ce que c'est facile de trouver, justement, des personnes qui veulent adopter un chat qui n'est pas parfait, quelque part?
Alors, il faut déjà trouver la personne et il faut aussi que l'environnement convienne. Donc, ça fait encore plus de barrières à l'adoption, forcément. C'est vrai que c'est plus difficile. Il y a certains handicaps plus moins lourds, on dira, comme en effet, comme on dit tout à l'heure, les tripates, les bornes, etc., qui ont moins de besoins spécifiques. Mais un chat plus handicapé, forcément, aura besoin, les fenêtres soient sécurisées, qu'il n'y ait pas forcément d'accès à l'extérieur, que la maison soit adaptée, qu'il n'y ait pas de danger non plus pour l'animal. Donc c'est vrai que ça aussi, ça fait partie du choix de l'adoptant. Donc ça entre en compte et c'est pas forcément facile de trouver les bonnes conditions pour le bon chat.
Laetitia, Alison, nous avons Eliane au téléphone qui nous a appelé au 3216. Bonjour Eliane.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
On vous écoute Eliane.
Alors vous avez adopté justement un animal handicapé.
Voilà, il est aveugle et il a 10 ans.
Et c'est un chien, c'est ça?
C'est un chien, un border collie.
Oui.
qui devait garder les moutons, parce que comme moi je regarde souvent des documentaires à la télévision, toujours les animaux, hein, parce que
ce sont des chiens de berger.
Voilà, et les premiers temps quand nous l'avons eu, nous étions tous les deux assis avec mon mari, on regarde un documentaire, c'est justement sur les loups et les moutons. Et le chien est devenu, mais alors, il était aux aguets, il allait dans tous les sens, alors avec mon mari on a dit ça, il n'y a pas de problème, c'est sûr qu'il a gardé les moutons. Voilà.
Et vous l'avez comme
Nous sommes restés en contact avec l'SPA et on nous a dit qu'il l'avait trouvé sur une route. Voilà, on l'a acheté sur une route.
Oh là là. Et donc il ne nous voit plus du tout, c'est ça?
Ah non, non. Et quand je l'ai adopté, parce que j'ai attendu un moment, parce qu'on restait en contact, parce que je voulais ce chien à tout prix. Pour vous dire, j'ai eu un chien aveugle, un chat aveugle. Hein. On lui a enlevé les deux yeux. Alors, ça me gênait beaucoup parce que je me disais, mon Dieu, et il attrapait des oiseaux, vous voyez. Faut pas croire à un handicap. Ça,
ah
surtout
oui.
pas.
Sans les voilà. Alors, il ne voyait pas les oiseaux, il arrivait à les attraper.
Il les attrapait.
C'est vrai.
Voilà. Ah oui. Les mouches, tout.
Ah, mais comme quoi, mais oui. C'est comme quoi
l'instinct.
La vue n'est pas le sens principal chez le chat et le chien. Ça faut le savoir aussi pour tous ceux qui ont un animal, un chat ou un chien aveugle.
Là, les sens principaux, c'est quoi? C'est l'ouïe, l'odeur.
L'ouïe et l'odeur.
Oui. Les moustaches.
Et voilà, les vibrisses, comme on dit.
Et vous savez, il repère tout. Tout, même le chien. Je viens de l'avoir puisque ça fait 2 mois et demi que je l'ai. On lui a fait faire 5-6 fois le tour de la maison, du jardin et tout. Vous le verriez courir dans le jardin. Il sait où tout se trouve, les obstacles.
Bon, c'est incroyable.
C'est inimaginable. Il faut voir pour le croire.
Et bien, il ne faut pas changer les meubles de place dans la maison, quoi.
Voilà. Eh ben, c'est ça. Moi, j'ai le chat que j'ai eu aveugle, enfin qui avait plus d'yeux, malheureusement, et on avait le malheur de déplacer un meuble, alors là, c'était fini. Mais il courait dans l'appartement, il savait où tout se trouvait.
Oui, c'est incroyable.
Je me dis, quand j'ai vu attraper des oiseaux, mais j'étais scotchée, je disais, mais c'est pas possible. Et il attrapait des oiseaux.
Incroyable. Et Eliane, le chien que vous avez adopté donc dans un refuge, est-ce que ça faisait longtemps qu'il était dans le refuge? Est-ce que
ça faisait 4 mois, puisqu'on est toujours en contact avec le refuge. Hein.
D'accord.
Parce qu'au départ, il croyait que je voulais le prendre, vous savez, je sais pas comment on appelle ça, par période. C'est-à-dire juste me le laisser un peu comme ça. J'ai dit non, moi je veux l'adopter. J'ai le papier d'adoption et tout. Et je leur ai dit, vous venez le voir quand vous voulez. D'ailleurs, ils sont déjà passés, ils sont venus le voir. Et au mois de juin, on les ramène au refuge parce que quand on est parti de ce refuge, vous voyez, rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux. Ces gens-là ont pris ce chien en photo. Ils s'étaient un peu attachés à lui. Mais j'ai dit, vous en faites pas, on vous le ramènera, vous le reverrez. Il n'y a pas de problème.
Bravo, voilà. Eliane.
Il ne faut pas avoir peur. Non, faut pas
bien
avoir
sûr
peur.
Que non.
Vous voyez, sur le papier, parce que c'est un coup de cœur qu'on a eu avec mon mari, on ne voulait plus de chien. On est âgé, on est retraité et tout. Mm-hmm. Donc je me disais, quand j'ai vu ce chien, j'ai dit, mon Dieu, 10 ans. Il va vivre combien? Allez, 5-6 ans. Et puis on s'est mis d'accord. J'ai téléphoné à un vétérinaire parce que j'ai eu un chat qui s'est fait écraser. J'ai un vétérinaire qui vient à domicile. Je lui ai téléphoné, je lui ai demandé. J'ai dit, monsieur Nicolas, comment je peux faire? Est-ce que je fais pas une bêtise? Il m'a dit, allez-y, vous êtes tellement gentil et tout, allez-y, parce qu'il avait vu comment j'avais soigné ce chat.
Parfait, voilà. Merci beaucoup Eliane
pour
ce témoignage.
Alison,
merci.
quand on entend ce témoignage, ça vous donne de l'espoir aussi pour les adoptions.
Oui, bien sûr, oui. Mais il y a de plus en plus de gens qui font le pas et qui adoptent des animaux handicapés. C'est super d'avoir des retours comme ça.
Laetitia, juste une petite question. Moi j'hésite aujourd'hui, j'imagine qu'il y a pas mal d'auditeurs qui nous écoutent et qui hésitent à adopter un animal handicapé. Qu'est-ce qu'on peut le dire pour les convaincre? Alors on a eu le témoignage d'Eliane, le témoignage d'Alison. Est-ce que on peut y aller sans aucun problème? On sera heureux avec cet animal et malgré tout on pourra passer de bons moments avec lui.
Bien sûr. Bah, vous savez, l'amour, c'est pas un handicap. Hein. C'est pas parce qu'il est handicapé qu'il donne pas. Et encore, je me demande si ces animaux handicapés ne sont pas encore plus reconnaissants, Alison, parce que j'ai vu un reportage sur votre association et j'ai vraiment l'impression que ils donnent encore plus. Peut-être qu'ils sont plus reconnaissants envers vous. Il y a une sorte aussi de résilience aussi chez ces animaux, puisque beaucoup ont été victimes de l'homme, hein, parce que accident, parce que coup de fusil, parce que j'ai vu aussi dans votre association un chat qui avait été brûlé et que vous avez sauvé et même ressuscité puisqu'il était condamné.
Oui, plusieurs. Il y a beaucoup de, sévices qui sont faits sur les chats. Et en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça rapproche parce qu'on met des soins en place. Il y a des instants qui nous permettent vraiment de tisser des liens, etc. Et c'est vrai que souvent, on est plus proche des animaux qu'on a soignés parce qu'on y passe énormément de temps aussi et que eux nous font confiance. Donc forcément, il y a beaucoup plus de liens qui se créent.
Pour finir, Alison, comment on peut aider Handicats?
Alors, on a une page Facebook, on a aussi un forum, donc il y a toutes les informations dessus pour adopter, parce que c'est important. Le fait d'adopter un chat, ça libère aussi une place pour un autre. Donc, pour en sauver un autre, c'est vraiment important. On a besoin de familles d'accueil aussi, c'est vraiment un point essentiel.
Donc, une famille qui s'occupera du chat avant l'adoption.
Voilà, donc entre la fin des soins qui se passe forcément au siège de l'association, donc chez nous, le chat arrive en famille d'accueil à jour de tout, donc identifié, vacciné, stérilisé, testé, etc. Et donc il y reste jusqu'à son adoption en effet. D'accord. Ou alors pourquoi pas en panier retraite en fin de vie quand on a un animal qui est très âgé ou qui est en fin de vie pour des raisons de santé. Et puis donc voilà, les familles d'accueil, on en a vraiment besoin et forcément le nerf de la guerre, les dons, puisque c'est ce qui nous fait vivre et survivre. Voilà.
Merci beaucoup. Merci Alison de Saland, donc présidente de l'association Handicats.
Merci à vous.
Laetitia, on revient dans un instant. Après les chiens, les chats, les oiseaux.
Eh ben oui.
Voilà. On va en parler avec Gilles.
Les oiseaux de jardin, les oiseaux de balcon, les oiseaux sauvages.
Comment les nourrir et doit-on les nourrir, tiens, à l'approche du printemps? On va poser la question à notre invité Gilles Leblay qui nous rejoint dans une minute. C'est RMC, c'est le week-end des experts. Les animaux, le 3216 ou animaux@rmc.fr pour nous joindre. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts. Vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le retour du week-end des experts, les animaux, jusqu'à 8h comme chaque dimanche. RMC vous propose 2 heures dédiées aux animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Juste après, c'est Jean-Luc Moreau qui m'enjoindra pour l'automobile, bien évidemment. Laetitia, on va maintenant parler des oiseaux. Les oiseaux qu'on a forcément envie de chouchouter, de choyer.
Eh oui, et vous les entendez. En ce moment, vous les entendez quand même, vous les voyez. Je pense aussi dans les parcs, dans les jardins. Ils sont revenus, en tout cas, ils sont très actifs.
Enfin, là, il n'y a pas que des oiseaux d'ailleurs. On entend derrière une voiture ou je ne sais pas quoi.
Oui, c'est vrai. Mais bon, ils sont aussi présents dans les villes, hein, bien entendu.
C'est vrai.
Ils annoncent le printemps. C'est bien. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va bien les entendre puisqu'il va faire beau aujourd'hui. Oui. Et nous sommes donc avec Gilles Leblay qui est ornithologue et auteur de J'accueille et j'observe les oiseaux dans mon jardin aux éditions Terre Vivante. Gilles, bonjour.
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 Alors, d'abord, j'aimerais savoir, est-ce que les hirondelles sont arrivées? Moi, j'en ai pas encore vu, mais je sais que c'est toujours l'annonce du printemps, le retour des hirondelles.
Dans le sud, on va dire, peut-être.
Oui, peut-être. En tout cas, moi, j'en ai pas encore vu dans le nord. Alors, on sait qu'il faut nourrir les oiseaux l'hiver, mais est-ce qu'il faut les nourrir aujourd'hui?
Ça dépend de l'endroit où on est. Si on est en montagne, il y a encore des chutes de neige, un froid intense, de la glace, des choses comme ça. Oui, c'est l'aide aux oiseaux par le nourrissage ne doit être que temporaire en hiver, par temps de grand froid ou d'enneigement. Voilà.
Bah, d'autant plus que là, les oiseaux vont faire leur couvée. Ils auront plus besoin d'insectes que de graines.
Voilà, c'est plutôt... un régime, beaucoup d'oiseaux vont devenir granivores en hiver, donc c'est là qu'on peut les aider, hein. Mmh. Les insectivores avec de la graisse notamment, animale entre autres, suisse de bœuf, des choses comme ça, ou saindoux, et puis donc du tournesol, du chênevis, de l'alpiste, bien que la plupart des oiseaux aiment beaucoup le tournesol. Mais c'est vraiment une aide temporaire quand il fait froid, dans des conditions où le sol est gelé, où il y a de l'enneigement, des choses comme ça.
Donc on réduit les doses là actuellement. Si on est par exemple en ville et qu'on avait l'habitude pour l'hiver de leur donner à manger, on enlève tout ça?
Alors il faut mieux le faire doucement, mais...
Sinon après il y aura des plaintes. Hein.
Les oiseaux peuvent se débrouiller tout seuls en fait.
D'accord. Alors vous dites dans votre livre que les oiseaux sont les amis, les auxiliaires un petit peu des jardiniers, ce qui est méconnu.
C'est exact, on ne sait pas, il n'y a pas que, il y a beaucoup d'auxiliaires au jardin utiles. Bon, tout le monde connaît le hérisson, tout le monde connaît la musaraigne ou certains lézards comme l'orvet, mais chez les oiseaux, ils ont tous un rôle à jouer en tant qu'auxiliaires précieux. On prend par exemple les mésanges que tout le monde connaisse. Toutes les mésanges vont avoir un rôle intéressant en tant qu'auxiliaires parce que elles vont se nourrir au moment dès la fin de l'hiver et même en hiver de certains insectes qui sont cachés sous les écorces. Donc je pense à des papillons par exemple, comme les noctuelles ou les phalènes, qui peuvent être des papillons envahissants, on va dire, plutôt que nuisibles. Ils vont chasser notamment les femelles qui sont à terre, sans feuilles, et qui vont se trouver sur les écorces. Donc ça évite des proliférations de ces papillons qui peuvent devenir indésirables à certains moments, notamment sur certains fruitiers. Et c'est le cas avec d'autres oiseaux aussi qui vont avoir leur rôle à jouer. Au moment où elles nourrissent, certains vont nourrir leurs petits, notamment au début du nourrissage, presque essentiellement avec des pucerons.
Jean-Michel est avec nous au 32-16. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Laetitia, bonjour François, bonjour Gilles. Voilà, donc j'ai une petite question à vous poser.
Oui.
Donc ma femme adore les oiseaux, les chats.
Oui.
Moi j'adore les oiseaux.
Ah. Est-ce compatible?
Et vous allez divorcer donc, c'est ça?
Pas encore. Alors je voudrais savoir s'il y a des races de chats qui sont beaucoup moins chasseurs, même complètement indifférents, aux oiseaux, toutes ces petites bêtes.
Alors, j'allais vous dire, Jean-Michel, je vais pas vous conseiller un chat aveugle, parce que vous avez vu qu'avec Eliane...
Oui, même aveugle, oui. Voilà. Ils arrivent à chasser.
Voilà, qui avait un chat aveugle. Alors, qui chassait très bien.
S'il est aveugle, sourd et qu'il a deux pattes, c'est peut-être jouable. Hein, là, on peut être tranquille.
Non, là, vous touchez quand même... Bon, le problème, c'est que le chat, c'est un chasseur dans l'âme. C'est son ADN, hein, c'est un prédateur. Alors, j'ai vu des races peut-être plus feignantes en chasse que d'autres, comme par exemple les persans, mais les persans chassent aussi.
Oui, voyez, justement, ma femme avait un persan, donc, qui est mort il y a 2 ans. Il avait connu donc l'appartement pendant 7 ans à peu près. Donc il n'avait pas été mis en contact avec les oiseaux, avec les souris, avec tout ça. Donc c'est vrai que bon, il était un petit peu amorphe sur la chasse. Mmh. Moi, ça m'allait très très bien.
Ouais, là, c'est la seule race que je peux vous conseiller, tout en sachant quand même que le persan est quand même, enfin c'est un chat, donc il chasse aussi. Mais c'est vrai qu'ils sont plus feignants, ces chats-là. Voilà, donc je vous conseillerais le persan, tout en sachant qu'il chassera quand même.
Alors, bon, juste... Gilles, vous n'avez pas un petit conseil à donner à Jean-Michel, par hasard?
J'en ai un petit, c'est très compliqué. Moi j'ai eu des chats, mais comme ils savaient que j'étais ornitho, ils chassaient jamais les oiseaux.
Donc, ouais, d'accord.
Ça c'est pas mal ça.
Que ressentent les animaux, je pense.
Il faut que vous veniez habiter chez Jean-Michel.
Ça fonctionne. Et ça va fonctionner entre autres pour les oiseaux, pas pour les papillons, les lézards ou les petits mammifères, mais ça fonctionne. C'est d'aller dans une mercerie et acheter le plus petit grelot qui existe.
Oui, c'est vrai.
Le plus petit qui soit. Et donc sur un collier. Et il y a un bruit et ça permet aux oiseaux, peut-être pas dans tous les cas, mais on va dire que ça limite les dégâts.
Voilà, moi j'ai une autre solution aussi concernant les chats chasseurs, c'est de mettre un chouchou à la place du collier. Vous savez, le chouchou, c'est ce qu'on met dans pour faire la queue de cheval, hein, nous, les filles. Et il existe les Anglais qui adorent les oiseaux et qui adorent les chats. Alors c'est eux aussi, ils ont ce problème-là. On a inventé comme ça, comme un collier, un gros chouchou qu'on met autour du bien coloré, que l'on met autour de la tête du chat, pour que les oiseaux repèrent de loin chat qui arrive. Et puis c'est vrai que le gros lot.
C'est
vraiment
bon,
voilà.
Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si on vit dans l'environnement du champ, on entend le grelot tout le temps, quoi.
C'est vraiment du discret, hein, parce que comme disait Gilles, on met un petit grelot. Voilà.
Merci beaucoup Gilles Leblay, ornithologue et auteur de J'accueille et j'observe les oiseaux dans mon jardin. Merci beaucoup. Et puis merci aussi
aux éditions Terre Vivante.
Voilà, Jean-Michel qui est avec nous. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain 6h-8h sur RMC.
Oui, je vous souhaite un très bon dimanche ensoleillé, n'est-ce pas? Et je vous embrasse. Et je vous dis bien sûr à dimanche prochain.
Et dans un instant, l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoint après la météo et des infos. À tout de suite.